Radioscopie. Radioscopie.
Feller Paul.
Jacques Chancel. Nous voici au dernier jour de l'année, aux dernières heures, dans l'attente d'un autre matin, et c'est la main qu'il faut tendre, qu'il faut vouloir surtout et savoir tendre. Cette main, qui est le plus noble des outils, je vous l'attends, Père Paul Feller, et je crois qu'également nous pourrions regarder toutes les autres mains qui se tendent en ce dernier jour de l'année. Vous êtes prêtre, Paul Feller, vous appartenez à la Compagnie de Jésus, vous êtes jésuite, mais plus encore, sans doute, vous êtes ouvrier, et je dirais même que vous êtes œuvrier, c'est-à-dire l'homme d'une œuvre, peut-être pas encore d'un chef-d'œuvre, mais d'une œuvre. Ai-je raison ?
Oui et non. Je dirais, plus que tout, je suis prêtre de la Compagnie de Jésus. Et vous atteignez d'entrée de jeu le cœur de ce nœud de contradiction dans lequel, me sentant enfermé, j'ai voulu me sentir enfermé pour en sortir. Et, si possible, et cela se fera, aider le plus possible d'autres à en sortir, car, me semble-t-il, nous sommes enfermés dans une contradiction.
Laquelle ?
Eh bien, prêtre de la Compagnie de Jésus ou ouvrier, je suis navré, Jésus est ouvrier ! Excusez-moi, vous voyez où, dès le début, je m'emballe. On me l'avait dit, ne vous emballez pas. Ne cassez pas les vitres dès le début.
Vous avez d'habitude de casser les vitres.
On le sait, on ne le sait que trop. Mais, mon ami Chancel, si vous permettez, je sais être doux, charmant. Précisément doux parce que fort. J'ai gagné d'avance. J'ai gagné d'avance mon pari. Et plus je vais, plus je vois qu'il est gagné encore. Me faut-il, et c'est ce qui fait que j'ai grand plaisir à être ici ce soir, surtout si je veille à ce que l'on voit bien de quoi il s'agit. Contradiction ? Voyons. Regardez la carte du monde entier aujourd'hui, pour ne pas parler de l'histoire du monde, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, c'est une vision qui m'est familière. Mais regardez ce qui est plus familier à l'ensemble des gens, la carte du monde. Et demandez-vous si les gens qui se recommandent de Jésus-Christ mesurent combien, eux tous, ils sont différents les uns des autres par rapport à ce Jésus, eu égard à son humanité.
Vous ne faites pas confiance aux hommes.
Oh si, énormément. Il n'y a que l'homme qui m'intéresse, du reste. Seul l'homme m'intéresse. Vous comprenez, seul l'homme m'intéresse. Parce que précisément, je crois en Dieu. Et précisément en un Dieu qui a voulu... Non, pas, on disait jadis, il s'est fait homme, on dit encore ça, il s'est fait homme. Non, non, il a voulu devenir homme. Je vais vous dire quelque chose. À un moment de ma vie, j'ai décidé. J'étais un peu libre, je me suis souvent libéré. Et étant un peu libéré, j'ai décidé, tu deviendras un homme. Aujourd'hui, je dirais devenir homme, non plus devenir un homme, si vous voulez. Qu'est-ce que ça voulait dire, devenir un homme ? Ça voulait dire, Paul, tu n'entreras pas dans telle grande école pour ensuite, etc. Non, 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 non. D'abord, tu deviendras un homme.
Mêlé aux autres.
Ah oui, un homme sur qui on puisse compter. Voyez-vous, quand on cherche un homme sur qui on puisse compter. Et j'ai voulu... J'avais 20, 21 ans. C'était exactement en 1934, voyez-vous. Je suis né en 13. Devenir un homme. Et maintenant, je dirais... J'améliore, si vous voulez, je dirais... Me semble dit, je dirais devenir homme.
Mais devenir homme ou devenir prêtre?
Ah, ça, alors devenir prêtre, ça, c'est autre chose. Excusez-moi. Puisque vous posez la question, disons tout de suite ceci, qui est assez... qui n'est pas tellement fréquent. Je frappe à une porte, c'est un dimanche, de Quasimodo, très exactement, 3h d'après-midi. Je suis militaire, je suis modestement brigadier, je suis 2 semaines, comme on dit... C'est dans l'hippomobile, j'ai donc fait mon service le matin, j'ai... Et puis, au début de l'après-midi, je me suis fait remplacer par un ami, s'il était de l'antenne, Joseph Lebrèche. Je me fais remplacer. Et alors, j'arrive au collège des Pères Jésuites, là, où j'avais un gîte, et puis je vais prier. Sans avoir pris le besoin de me mettre en tenue civile, en tenue bourgeoise, comme on disait à l'époque. Je vais prier à l'église. Et puis, alors, je vais frapper à la porte du père recteur, et entre le moment où il dit « entrez » et le moment où je tourne la poignée de la porte, Paul, je me dis « tu seras jésuite ».
À ce moment-là?
Oh oui, comme ça, c'était en 1937. Voyez-vous, comme ça, et c'est je n'ai pas bronché depuis, si ce n'est que, c'était autre chose. Mais... Alors, c'est ensuite, à l'intérieur de cette vocation religieuse, à la Compagnie de Jésus, que les supérieurs m'ont dit « Vous serez prêtre ». Je n'ai pas choisi. C'est eux qui m'ont appelé au sacerdoce et j'ai accepté. J'ai accepté par obéissance. Je n'étais pas entré pour faire ma volonté. On n'entre pas chez les Jésuites pour faire sa volonté propre. On entre pour faire la volonté de Dieu. Voyez-vous ? Alors, je suis devenu prêtre, tout doucement. Mais, alors, je vais vous dire aussi quelque chose, et vous, qui m'a beaucoup réconforté dernièrement. Notre supérieur disait, il parlait d'un théologien qui fait de la christologie, qui est très estimé, très aimé, un homme absolument charmant, que j'ai connu en captivité, il s'est évadé par Copenhague. Eh bien, il disait que ce père avait eu à refaire sa christologie parce que, entre ses études à lui et puis son enseignement supérieur, aux étudiants de l'enseignement supérieur, les sciences humaines avaient changé. Pour moi, disons, les sciences humaines ont changé, comme pour tout le monde, mais plus que ça, une expérience à laquelle, selon la tradition de la Compagnie de Jésus, j'ai voulu me livrer. On nous demande d'affronter des difficultés de façon à passer par l'épreuve, de façon qu'ensuite on soit à toute épreuve, mon ami, vous comprenez ce que ça veut dire, à toute épreuve, qu'on puisse nous lancer à l'autre bout du monde. Et plus que jamais, unis avec tous les autres et toute l'humanité entière. Et ces épreuves, figurez-vous, je les ai menées depuis la fin de mon noviciat. Et Dieu m'en a ménagé, que je n'avais pas prévu, du reste. Mais Dieu m'en avait ménagé dès auparavant, n'est-ce pas? Si vous permettez. J'avais 17 ans. C'était la veille de rentrer en classe, du temps qu'on rentrait comme ça en octobre, si vous vous souvenez, le 1er octobre. Mon père me dit, Paul, tu iras gagner ta vie. Et je n'ai pas eu à choisir. Il m'a amené, un de mes frères et moi, à la belle jardinière. Oui. Acheter un costume avec un pantalon long pour abandonner les culottes courtes que j'avais. Et puis, il m'a présenté avec mon frère. Il a présenté mon frère et moi. C'était mon frère qui entrait et moi, je l'accompagnais. C'était comme ça. C'était la décision de mes parents. Mon frère, qui est plus jeune que moi, de 18 mois, donc qui était bien jeune, pour entrer tout seul, du jour au lendemain, dans le monde de la nouveauté. Lui est entré dans la soierie, parce qu'il avait la primauté, c'était le grand rayon, et moi, dans la bonneterie, le sous-vêtement homme-femme-enfant. C'était une cassure extraordinaire, une épreuve extraordinaire.
Vous y êtes resté longtemps?
Non, Mon père est mort 2 ans après sur son lit de mort. Il m'a dit, je te fais mes excuses. Tu reprendras tes études, tu étais fait pour faire des études. Alors, j'ai repris mes études avec autant de bonheur que j'avais commencé à gagner ma vie par obéissance à mon père et au travers de l'obéissance à mon père. C'était tellement évident dans notre famille, obéissant à Dieu le Père. Et dans le commerce, si vous permettez que j'y revienne, ça se situe boulevard Voltaire, au numéro 137, Paris-France, cette maison qui a acheté les trois quartiers, Madelios, où j'ai fait un petit stage, du reste une petite quinzaine. Eh bien, j'avais compris, parce que j'avais du nez, déjà, que le commerce consiste à acheter d'abord. Et la fonction que j'ambitionnais, c'était de devenir acheteur. Paul, tu deviendras acheteur. Il y avait le chef de rayon, il y avait le second, il y avait le chef de... Je ne me rappelle plus comment on appelait, le chef de groupe, et puis il y avait le grand chef des achats. Mais moi, je disais, non, tu seras acheteur. Or, j'étais payé de mon obéissance. Depuis 1954, je ne fais qu'acheter. Acheter avec ou sans argent, mais acheter, acquérir.
Acquérir des outils.
Ah, d'abord des livres. J'ai commencé par les livres.
Vous êtes un acheteur professionnel.
Ah oui.
Enfin, un connaisseur. Un amoureux.
Ah oui, mais un amateur au sens profond du mot, du verbe amarrer, aimer, n'est-ce pas? J'aime.
Mais j'ai l'impression, père Paul Feller, que vous êtes né tout de même pour l'obéissance. Vous avez d'abord obéi à votre père, vous avez interrompu vos études, et ensuite vous avez obéi à la compagnie de Jésus, vous obéissez encore à cette compagnie. On peut se demander d'ailleurs pourquoi vous êtes devenu jésuite. Vous auriez pu devenir prêtre.
Ah non. Ah,
simplement prêtre.
Non, excusez-moi. Il n'y a pas eu de choix. Comme je vous l'ai dit, tu seras jésuite. J'avais choisi 3 ans auparavant d'accepter un poste qui m'était offert dans un collège de jésuites, alors que j'étais dans une autre école. Et ça m'a semblé ce qu'on appellerait aujourd'hui une promotion. Dans l'autre école, j'étais au pair. Au pair, ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de monde, ça. Mais pendant 2 ans, ne jamais gagner un sou. Pour faire son budget, c'est difficile, vous savez. Je me souviens encore, à l'époque, les Doresques, les cigarettes Doresques, coûtaient 3,50 francs les 5, si je me souviens bien. Si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus très bien comment ça se passait, mais c'était très cher, très cher. Et puis là, on m'offrait un salaire, un traitement. Mais, permettez, j'avais entrevu les jésuites, non pas la compagnie des jésuites, j'avais entrevu les jésuites, et au travers des jésuites, auparavant, dans 2 collèges, où j'étais passé, car je ne faisais que passer, nous passions, dans notre famille, nous passions. Eh bien, j'avais deviné que les vrais jésuites, ce sont des hommes. J'avais flairé. Alors je suis entré.
Différent des autres?
Ah, nous avons peut-être le devoir impérieux, eu égard à la richesse que nous appliquons à notre formation, d'être conforme à nos constitutions, à notre institut, qui est peut-être, ça va faire dresser les cheveux sur les têtes des gens, mais nous avons le devoir d'adorer le vrai Dieu devenu homme. C'est ce qui fait que nous autres jésuites, voyez-vous, depuis 4 siècles, nous sommes d'abord pour la propagation de la foi, mais en même temps, ce service de Dieu, le service de l'homme, sont des jésuites, n'est-ce pas, qui ont fondé ces fameux observatoires de l'Extrême-Orient, qui ont décelé les typhons, qui ont empêché les gens de se rompre les os dans les tempêtes. Il y a des jésuites qui passent leur vie dans les choses.
Êtes-vous plus intelligent que les autres, plus cultivé que les autres?
Moins autre chose, peut-être, si vous permettez. Oui, nous avons d'excellentes raisons pour ça, vous comprenez. D'abord, on ne nous permettrait pas d'être ceci ou cela, voyez-vous. Mais disons que nous sommes des hommes fort moyens. Il y a les grands noms, il y a les très grands noms, il y a les très très grands noms derrière lesquels les gens abritent tout l'ensemble des jésuites. Nous sommes des hommes très ordinaires, je suis un homme très ordinaire, je suis un homme. Voyez-vous, s'il y a un homme que j'aurais pas aimé voir à Radioscopie, entendre aujourd'hui, j'étais bien Paul Feller, parce que...
Vous ne vous aimez pas?
Oh, je, Je voudrais me rendre, oui, je voudrais devenir aimable au monde entier, à commencer par moi-même. Et c'est très difficile parce que plus je vais, plus je mesure que... je détourne bien des qualités que j'ai et qui sont... d'autant plus remarquables qu'elles sont très charnues, très charnues, très sensibles, très colorées, vous comprenez. Je détourne ces dons, n'est-ce pas, je suis assez égocentriste, je me moque des gens avec une facilité étonnante. J'ai fait votre portrait quand vous êtes arrivé, comparé au portrait qu'on publie habituellement. Le décalage d'âge, tout de suite, ça m'a frappé, quoi. Je vous dis ça comme ça parce que vous êtes épatant, je vous le dis gentiment, mais voyez-vous, c'est terrible, ça, c'est terrible, parce que... Je vous raconte une histoire, si vous voulez, pour faire diversion.
Allez-y, allez-y.
Écoutez, ma mienne, j'avais un gros défaut, entre autres... Je ne pouvais pas voir une jolie femme sans, d'une manière ou de l'autre, le lui dire.
Alors, c'était très gênant. Vous, le prêtre.
Oh, oui, mais la beauté, c'est extraordinaire. Mais c'était très gênant pour les autres, vous comprenez. Je me suis interrogé là-dessus, j'ai fait une espèce de révision, je me suis dit, Paul, voyons, et les autres. Alors ce jour-là, ça date d'il y a un an, j'ai décidé que toutes les femmes sont belles, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et non seulement elles sont belles, mais elles sont bonnes. Et même certaines sont saintes. Alors si nous n'ouvrons pas les yeux pour voir ces réalités profondes, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Il faut être humain, il faut être humain. Nous avons le devoir, nous, les Juifs, d'être très humains, très humains. Mais alors, je vous disais contradiction tout à l'heure, vous comprenez?
Est-ce Dieu qui vous a demandé d'être méchant?
Comment?
C'est vous qui avez parlé de votre méchanceté. Dieu vous le demande?
Ah non, 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 au contraire, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Non, non, c'est... Je suis pas méchant, si vous voulez, je suis mauvais quand je mets quelqu'un en boîte, vous savez. Les autres ne rient pas, comme me l'a dit un homme très fin. Il m'a dit, mais c'est que les autres se demandent ce que ce sera quand ce sera leur tour. Parce que ce soit en public, en privé ou n'importe comment. Alors, c'est un très gros défaut dont je voudrais me corriger. C'est pourquoi j'espère vivre encore un peu.
C'est vrai que vos colères sont célèbres.
Oui, oui.
La compagnie de Jésus vous pardonne.
Non. Elle me pardonne, mais elle me demande de ne plus recommencer. On me dit qu'il n'était peut-être pas... Et on a raison, j'ai beaucoup de peine à m'en convaincre, mais je m'en convaincrai que ce n'est pas nécessaire d'aller faire une promenade sur la montagne de Sainte-Geneviève, voyez-vous, sans faire de référence plus précise. Mais ça, vous m'excuserez, je ne l'avais pas prémédité. On dit que j'ai du ressentiment. Peut-être qu'il n'en aurait pas, qu'il n'en a pas. Mes contradictions, si vous voulez, contradictions que je vous disais tout à l'heure, moi, plus je vais, nous autres jésuites, nous devons, voyez-vous, de proche en proche, d'année en année, par les étapes des retraites spirituelles, demander ce don extraordinaire de connaître toujours davantage Jésus, pour le servir davantage, toujours, en l'aimant toujours davantage. Et eu égard à cette évolution des sciences humaines qui nous fait connaître un peu mieux l'homme. Nous sommes davantage attirés à cette heure sur le devenir homme qu'il y a 20, 30, 40 ans.
Mais êtes-vous pessimiste sur le devenir homme? On ne dit plus devenir un homme, on dit devenir homme. On ne dit plus devenir un prêtre, devenir prêtre.
Ah oui,
et même le devenir homme.
Ah non, moi quand je dis devenir homme, c'est beaucoup plus fort parce que justement, voyez-vous, Jésus n'a pas eu à devenir un homme. Jésus n'est pas un homme. Il passe pour être un homme. C'est Dieu qui devient homme. C'est la nature humaine. Il prend la nature humaine. Sa nature divine, il prend la nature humaine. Il reste le Fils de Dieu. Et moi, qui suis un homme, j'ai à devenir de plus en plus homme. Et ça, je le peux en limitant. Alors, à force de chercher, non seulement au travers des sciences humaines, si vous voulez, dans leur progrès, mais surtout, je ne vous le cache pas, au travers de l'expérience. L'expérience, vous entendez. Les sciences humaines, eh bien, disons, mon cher ami, j'ai ramassé des livres, avant de ramasser des outils. Et... j'ai commencé, je ne dirais pas systématiquement, mais méthodiquement. Une bibliothèque qui est unique en France actuellement, qui est inabordable pour le moment, question pratique, d'ordre pratique.
Mais qui est à vous, seulement à vous.
Pas à moi. Elle était à la Compagnie de Jésus, et la Compagnie de Jésus, sur ma demande express, l'a remise entre les mains d'associations ouvrières des Compagnies du Devoir, parce que c'est moi qui les ai choisis, et ce, de mon vivant, parce que j'ai choisi que ça se fasse de mon vivant, de façon que ce soit beaucoup plus parfait. parfait comme don, beaucoup plus libéral, beaucoup plus gracieux, beaucoup plus profitable, rentable pour tout le monde. Je fais, si vous voulez, il faudrait trouver un terme, je ne vois pas, le service après vente. Mais c'est le service après, s'il n'y a pas eu vente, il y a eu don. Le service après don. Je suis là, un des objets de la documentation que la compagnie a donné ainsi, dont elle s'est dessaisie. Je suis un des objets les plus encombrants.
Alors, Paul Pelfer...
Les expériences, pardon.
Père Paul Feller, vous avez donc la plus belle bibliothèque, mais il faut dire aussi tout de suite, parce que nous parlons des livres, nous parlons des outils, que vous êtes l'un des plus importants collectionneurs d'outils d'Europe. Alors, je me pose cette question, moi. Je me demande si vous avez été fidèle à vos engagements, parce que avez-vous su faire le choix entre l'adulte que vous êtes maintenant et l'adolescent que vous étiez autrefois ? L'adolescent est entré dans la compagnie de Jésus, est devenu prêtre. L'adulte est devenu homme, a quitté un tout petit peu la compagnie de Jésus, puisque vous êtes non pas en rupture, mais vous êtes en marge. Non ?
Pas loin du monde !
Ah bon, pardon.
Pas loin du monde !
Enfin, un homme qui s'occupe des outils, d'ailleurs vous avez écrit un remarquable ouvrage sur l'outil avec des photos qui sont belles comme des chefs-d'œuvre, comme des œuvres d'art. Et on a l'impression, c'est mon impression, que vous êtes toujours à Dieu, mais que vous êtes encore plus aux hommes. Peut-être est-ce mieux.
Ah non plus. Je n'ai jamais séparé le service de Dieu du service de l'homme, précisément parce que je pense, comme on dit en latin, et le latin est très fort à cause de... le peu de nombre de mots, in domino Jésus, dans le Seigneur Jésus, mais pas n'importe quel Jésus, c'est un Jésus qui a des outils en main. Or, vous venez parler d'adolescence. Certes, c'est un grand adolescent qui est entré dans la compagnie de Jésus en 1937, alors que je suis né en 13. C'est un adolescent déjà fort prolongé.
24 ans.
Oui. J'avais gagné ma vie depuis 1930. Et figurez-vous que j'avais eu, pour m'occuper d'adolescents de 1934 à 36, très précisément, au collège à Metz, j'avais fait... sans savoir quelque chose de très fort. Je me présentais de façon banale, comme les choses de la vie, mais en effet avec probité. Je m'étais dit, Paul, tu vas te comporter vis-à-vis de ces adolescents comme on ne s'est pas comporté vis-à-vis de toi quand tu étais adolescent. Tu vas faire de telle sorte que dans 15 ans, c'est un laps de temps, dans 15 ans, tu puisses les retrouver, ils puissent te retrouver les yeux dans les yeux, et que ni les uns ni les autres n'aient rien à se reprocher. C'est extraordinaire, il est vrai qu'avec la durée, la différence d'âge disparaît. On se retrouve entre adultes, simplement, ils sont aussi balèzes que moi, ils peuvent me mettre le poing sur le nez s'ils ont des comptes à régler avec moi. J'ai fait ceci, je vous passe les détails, mais disons par exemple que je fournissais moi-même le papier pour corriger les copies. Je ne corrige jamais les copies sur la copie pour ne pas meurtrir la copie d'un enfant. Je mettais des numéros de rappel, des ronds, puis je fournissais un papier, du beau papier, que je payais de mes deniers. Ça me servait à ça, mon traitement. Et je marquais numéro 1, vous avez écrit ceci, moi j'écrirais plutôt cela pour telle et telle raison, etc. C'était absolument extraordinaire. C'était...
C'est déjà le dialogue de l'homme avec la matière.
Ah, attention. On va y revenir, je veux bien. Mais oui, disons, écoute bien. Excusez-moi, je vous tutoie. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire, je disais tout à l'heure, j'ai fait un retour sur moi. Paul Feller, jeune adulte, surveillant et professeur de mathématiques, 2 fois 4 heures de classe en 3e secondaire, revit en même temps sa propre adolescence et l'adolescence de ses adolescents. C'était extraordinaire, ça. Et ça, je vis toute ma vie sur cette expérience-là. Parce que quand on a fait ça avec probité, je chancelle, quand avec probité, pendant 2 années, à l'étude, on n'a rien fait que de regarder les garçons, comme le disait le père préfet. C'est nourrissant. Je vis toute ma vie là-dessus. Et c'est ce qui m'amène de plus en plus à... Alors, il se trouve qu'avec la guerre, les croix de bois ayant fait des trous dans les effectifs de la compagnie, j'ai dû aller boucher un de ces trous à Amiens, dans un collège. Si bien qu'à 18 ans d'intervalle, me voilà replongé dans l'éducation des adolescents. Et il arrive un petit drame. Je quitte le collège en cours d'année scolaire. Pas par ma propre initiative, mais pas sans que j'y ai donné raison. Un échec monumental. J'arrive à Paris, très exactement banlieue, dans une maison de compagnie. Et au début de janvier 1953, le supérieur me dit : « Que voulez-vous faire ? » Jacques Chancel, je n'attendais pas cette question. Elle était inespérée. Je n'ai pas demandé une seconde de réflexion. J'ai dit, m'intéresser à l'apprentissage. Vous ne voulez pas être prêtre ouvrier, vous ne voulez pas être vicaire en paroisse populaire, vous ne voulez pas être aumônier de J.O.C. Dacio. Ben, vous me demandez ce que je veux. Je vous l'ai dit, m'intéresser à l'apprentissage, je ferai ça et rien d'autre.
L'apprentissage.
Sinon, je quitte la compagnie. Alors, je fais ça depuis 1953. Et donc, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez. Ce jour-là, c'était probablement la grande conversion de ma vie. J'avais, moi, raté ma vie puisque je voulais devenir un chef. J'avais eu l'occasion de la reprendre à Metz en aidant à l'éducation de futurs chefs. Me permettez, depuis, il y a eu 1940. Ça m'a marqué énormément. Énormément. La défaite d'abord, la captivité ensuite, dans des conditions exceptionnelles, rarissimes. J'ai commencé à douter de la valeur d'accession à l'autorité par l'école. Quand j'ai vu que ce que la France avait sanctionné comme valeur d'autorité pour commander la France n'a pas commandé en 1940, et qu'en même temps du reste, la même France n'obéissait pas, et que cette même France qui avait l'autorité a accepté, sans pleurer, me semble-t-il, d'être enfermé dans les oflags et de toucher sa solde. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à douter. J'ai pensé que nos écoles qui tendent à préparer les adolescents, entrer dans les grandes écoles plus tard pour commander, c'était pas très 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 solide. Alors, un beau jour, attention, entre deux, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le fait que j'étais militaire 3 fois dans ma vie, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est un don comme un autre. Moi, je l'ai pris comme un don.
3 fois militaire, 1 seule fois prêtre.
Un prêtre pour la vie, oui, depuis mon ordination en 1947. Mais j'étais militaire 3 fois. J'ai eu l'occasion de comparer ces 3 époques militaires, les 3 dans l'artillerie, la 3e dans les blindés. J'ai vu l'invasion, disons, de la mécanisation de l'armée par rapport à ce que nous avions connu en 40, et j'ai vu en 43, vous m'entendez, j'ai vu comme si c'était noir sur blanc qu'après la guerre il se passerait ce que M. Armand a appelé à juste titre cette mutation. Et en rentrant de la guerre, j'ai demandé dès le premier jour de mon entrée en théologie pour 4 années de théologie à passer tous mes congés à apprendre un métier manuel. Ça m'a été refusé aussitôt. Une adolescence contre une autre. Et l'adolescence que j'ai trouvée, vous m'excuserez, elle est sur la voie qui, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, passe par Nazareth. C'est tout ce que j'ai à montrer maintenant. Et c'est pour ça que je le montre au travers des outils.
Vous êtes un artisan ?
Je n'aime absolument pas du tout ce mot parce qu'il est tellement galvaudé actuellement, voyez-vous. Tellement galvaudé actuellement, n'est-ce pas ? L'artisanat, voyez-vous, excusez-moi, l'artisanat et l'artisan, ça fait deux. Dans l'artisanat, il y a l'artisan et puis il y a ses ouvriers et ses apprentis. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est pas l'artisanat, c'est l'homme qui, comme je l'ai écrit quelque part, a, dès l'adolescence, gagné sa vie du travail de ses mains. À l'époque, j'avais écrit travail, je n'aime pas beaucoup le mot travail, mais à l'époque, je l'avais écrit. ceux qui, dès l'adolescence, ont gagné leur vie au travail de leurs mains. C'est cela qui m'intéresse. Et vous les trouvez tout aussi bien dans l'industrie que dans l'artisanat. Vous les trouvez tout aussi bien dans les grands chantiers que dans l'artisanat. Vous les trouvez partout. Avec cette nuance, c'est que, et malheureusement, alors là, les sciences humaines sont un petit peu courtes pour moi, c'est un peu court leur analyse, avec cette différence, c'est que la densité, non seulement la densité professionnelle au niveau de ce que j'appelle l'ouvrage ouvrier, est plus forte dans ce qu'on appelle l'artisanat que dans ce qu'on appelle l'industrie, mais ce qui est beaucoup plus important, dans ce qu'on appelle l'artisanat, on est, comme je dis, sous le signe de l'unité. On n'obéit jamais qu'à celui qui est passé par le métier là. Vous savez, comme on dit dans le bâtiment, qu'est-ce qui commande ici? J'entends encore Arsène Bouillaguet. Qu'est-ce qui commande ici? C'est l'ouvrage. Ah. Et bien ça, là nous rejoignons quelque chose de la Compagnie de Jésus que j'étais très prêt à entendre, si vous voulez. C'est que nous n'obéissons, nous, à nos supérieurs, que parce que, et les uns et les autres, nous sommes tous obéissants au seul et même Dieu par le truchement de ses représentants sur Terre.
Père Paul Feller, vous avez tout à l'heure parlé d'apprentissage. Je crois qu'il faudrait redonner ses véritables significations à ce mot, le délivrer de sa poussière. Tout homme devrait passer par l'apprentissage. On a toujours pensé que l'apprentissage était seulement destiné aux moins doués, comme si c'était un calvaire, alors que c'est le moment d'apprendre, enfin, à mon sens.
Oui, voyez-vous, je vais vous dire tout de suite, parce que vous voyez bien que je suis, sinon prime sûreté, du moins, fait vif. Actuellement, volontiers, on infléchirait un petit peu les choses, on dirait oui, évidemment, les études, très bien, mais enfin, il y a des classes qui sont surchargées, puis il y a des enfants qui ne profitent pas tellement, alors on pourrait peut-être un petit peu déblayer le terrain, le faire glisser tout doucement, etc. Excusez-moi, je veux dire quelque chose de très intelligent, vous allez me suivre, parce que vous en êtes capable, et...
Merci.
Mais nos chers auditeurs vont me suivre aussi. Il y a une chose et il y en a une autre. Il y a une chose qui est le point de vue de l'individu. Ici, l'adolescent. Que va-t-il faire? Et puis il y a une autre chose qui est le point de vue du métier. Je vais raconter une histoire, elle est pénible, mais comme elle est en train de s'achever, ce serait plus simple pour moi d'en parler. Point.
Vous avez décidé d'en parler.
J'apprends qu'un adulte a dit à un papa, vous n'allez tout de même pas faire de votre fils un menuisier. Bon. Alors, en fait, n'est-ce pas, comme on dit, n'est-ce pas, de quel droit va-t-on priver ce garçon, qui à l'époque est en terminale et qui est dans la botte, comme on dit, de quel droit va-t-on le priver, le priverait-on d'une carrière d'ingénieur, de l'espérance d'une carrière d'ingénieur, qu'il a toutes les prévisions, il réussirait. De quel droit priverait-on les garçons qui vont entrer dans le métier de charpentier de cette recrue de qualité en faisant pression? Pression, précisément parce que ce garçon, il a beau être le fils d'un menuisier, il est quand même à l'école. À l'époque, il était à l'école. C'est-à-dire qu'il était, comme tous les enfants, il a été mis d'abord sous la coupe. Pas d'abord, puisque lui, il est fils de menuisier en famille. Hein. J'aime vous dire que faut pas laisser traîner les outils dans le petit atelier en bas. Mais il a été mis d'abord sous la coupe des hommes aux mains blanches. Et qui se servent les premiers, je le sais. J'en étais, moi. Et j'ai eu le bonheur d'être retourné complètement. Accuse Paul Feller d'avoir souhaité que des garçons doués entrent dans toute autre chose que les métiers et d'avoir jamais pris le temps de souhaiter que des garçons doués. J'accuse Paul Feller et aujourd'hui je veux me racheter.
Je crois que tout le problème est là et ce que vous venez de dire est très très important.
C'est très important. Et voyez-vous, il s'agit de rétablir un équilibre entre l'autorité et l'obéissance.
Ne pas vouloir se faire plaisir lorsque les parents, lorsqu'ils imposent, vous dites mon fils sera ingénieur. Peut-être c'est à eux qu'ils veulent faire plaisir et non pas à l'enfant qui serait doué pour un métier.
Oui,
ou appelé par un métier, choisi par un métier.
Ah, bon, vous avez dit le mot, excusez-moi, vous avez dit le mot et je viens de le trouver, moi, ces jours-ci. Voyez-vous, excusez-moi, je viens de le trouver ces jours-ci. Tout à l'heure, ce que je n'ai pas dit, c'est parce que c'était des mots savants, si vous voulez. Le point de vue de l'individu, de l'adolescent, c'est ce qu'on appelle l'orientation professionnelle. Et le point de vue du métier, c'est ce qu'on appelle la sélection professionnelle. Pour viser au bien commun, pour gérer le bien commun, il faut voir non seulement le point de vue de l'ensemble des adolescents, mais le point de vue de l'ensemble des métiers, pour que l'ensemble des métiers, de façon, reçoivent, de façon équilibrée, des recrues de qualité. Parce que l'homme a besoin d'être épaulé par quelqu'un de qualité au milieu de lui, Alors, j'ai pas parlé tout à l'heure ces grands mots avant. Mais ce que je demande, moi, voyez-vous, à un adolescent qui entend ses éducateurs et ses parents dire « ce petit ferait un jour normal supérieur, que ça ne nous étonnerait pas », moi, je lui demande de bien vouloir envisager pourquoi il ne se trouverait pas en face de l'option, eh bien, ou bien tendre vers normal supérieur, par les études normales, ou bien tendre vers quoi, mon ami, tendre vers je ne sais pas quoi, mais par un apprentissage. Pourquoi, fiston, ne feriez-vous pas, je ne sais pas, moi, à vous de choisir, quel est le matériau qui vous rebute le moins, quel est le matériau qui vous attire le plus, quel est l'ordre de grandeur qui vous attire, est-ce que c'est la construction mécanique, les grandes affaires ou l'horlogerie, est-ce que c'est le bois ou le fer ou la pierre, que sais-je, etc. Le mettre en face de cette option pour aller où ? Oh, on m'a dit dernièrement, mais ce n'est plus de l'orientation professionnelle, c'est de la vocation. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Je dis parce que je le sens. De même que je sens quand la neige va tomber, ça me rend malade. Je sens qu'actuellement, un même esprit qui a un E majuscule, qu'on appelle comme on voudra, moi je l'adore, qu'un même esprit suscite actuellement dans notre société occidentale française un mouvement qui est désordonné parce qu'il n'y a personne pour aider ceux qui sont pris dans cette mouvance à voir bien clair. Qui, je vous demande, qui parmi les adultes est capable aujourd'hui de s'adresser à un adolescent qui va entrer dans son adolescence et de dominer à la fois les deux cheminements avec ou sans un apprentissage vrai. Qui donc ? Je n'en connais point.
Pour vous, l'apprentissage, c'est le moment du choix.
Ah, avant l'apprentissage, oui. C'est pour ça que je m'adresse aux adolescents qui... Je désire, moi, entrer en relation avec les adolescents de l'âge de 14 ans. Je veux que ceux qui se demandent s'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire à tenter pour que dans l'an 2000, nous ayons en France une poignée d'hommes qui auraient pu passer par leur mal sup, les eaux et forêts, que sais-je, l'école des chartes, etc., et qui sont passés par le métier de maçon, qui n'y ont pas perdu leur qualité, cette poignée d'hommes, je dis, cette poignée, va nous être nécessaire dans l'an 2000 en France pour rétablir dans le monde entier, vous m'entendez, je suis certain de ce que je dis, moi je suis convaincu, plus que convaincu, je touche cette certitude du doigt pour ramener la paix, une paix douloureuse qui s'acquerra par le sang, comme la paix de Jésus-Christ. C'est pas de la gnognotte, c'est une paix qui est donnée par le sang. Je demande que des garçons, disons-le, non, j'allais dire se sacrifient. En 53, Jacques Chancel, en 53, lorsque j'ai commencé mon étude, je ne fais que ça depuis 53, que ça. Et sans aucune rétribution qu'une petite pension que me verse la Compagnie de Jésus, je ne me sentais pas la possibilité de dire à un adolescent de choisir. Mais aujourd'hui, après ce que nous avons mis en place, cette collection d'outils à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, je puis dire à un adolescent, fiston, normal sup, putain, d'accord, mais pourquoi ne feriez-vous pas maçon ? Pourquoi non ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, nous avons mis en place cette fameuse collection d'outils dont vous avez parlé tout à l'heure.
Vous avez collectionné combien d'outils dans votre vie ?
On ne peut pas les compter. Voyez-vous, on ne peut pas les compter. On peut, si, on peut dire très exactement qu'actuellement ne sont présentés dans les vitrines actuellement que les...
À Troyes.
Oui, à Troyes, rue de la Trinité, à Troyes en Champagne, rue de la Trinité numéro 7, 4 et 3, eh bien, sont présentés actuellement uniquement des outils des métiers du bois, il y en a 700. 600 qui ont été présentés de façon magistrale par Daniel Pillan et Hubert Fendre, nos amis qui sont des décorateurs et qui font ça gracieusement, et qui le font jusqu'au bout. Dieu leur prête vie, et à moi aussi, et aux compagnons aussi. Eh bien, 600 qui étaient dans des vitrines. Et puis alors, pour l'anniversaire, on en avait ajouté encore une centaine. Et puis il y en a encore d'autres qui vont venir s'ajouter pour modifier les vitrines, les améliorer. Nous préparons les outils des métiers de la pierre. Je veux une vitrine de truelle. J'en voudrais 400, des truelles usées. Usées, de préférence anciennes, mais déjà vieilles et usées. J'en voudrais 400. J'en ai astiqué l'année dernière 200. J'en ai encore ça, une cinquantaine. Je voudrais, ensuite, on terminerait sur les outils du métier du fer et tous les autres métaux, et entre deux, les autres métiers, le cuir, etc.
Et alors, on ne peut pas dire qu'il y a un outil plus beau que l'autre.
Ah, Jacques Chancel, mon ami, vous posez là une question que je ne me suis jamais posée, mais...
Parce que là, j'ai tous ces outils sont beaux, ils mériteraient d'être exposés dans un...
Eh bien, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, c'est comme les femmes, si vous voulez.
J'ai le bouvet, là, j'ai la varlope.
Ah, oui, nous présentons ici quelques outils modestes, mais qui sont en général bons et beaux.
Les scies, on ne les a jamais vues aussi belles, et les haches.
Comme vous dites, oui. Nous voulons restituer, si vous voulez, à la contemplation de nos contemporains. Je vais dire quelque chose de difficile à entendre. C'est pas pour vous que je le dis, Jacques, mais c'est pour, dans l'auditoire, mes amis de 14 ans qui écoutent. Écoutez-moi bien. Je me suis mis quelquefois en colère à ce sujet, mais là, je ne vais pas me mettre en colère parce que je gagne. Je suis gagnant ici. Il y a à peu près 4 fois plus de jeunes qui, plus ou moins directement, entrent dans la vie active, si vous voulez, au moment de l'adolescence, que d'autres qui continuent les études. Si vous voulez, s'il y en a 100 000 qui continuent les études, il y en a 400 000 qui entrent plus ou moins directement dans la vie qu'on appelle active, par le truchement d'une préparation,
d'un métier.
Apprentissage, d'un métier, plus ou moins avec différents degrés de préparation. Or, disons, que... Tandis que les programmes, comparons les exigences des programmes pour ces deux adolescences. C'est par là que j'ai commencé en 1953. Nous parlons que de l'histoire. L'histoire n'est matière d'examen pour aucun des quelques 500 métiers qui ont un examen de fin d'apprentissage avec un programme, si ce n'est rudiment l'histoire de l'art pour quelques métiers d'art. Bon, je vous dis que moi, prêtre de la Compagnie de Jésus, étant obéissant, me souvenant qu'en 49, le super-général nous avait dit que les jésuites qui s'occupaient du peuple voulaient démontrer pour le peuple une sollicitude aussi grande que les autres jésuites pour les autres, je me suis dit, moi, que je ferais faire de l'histoire alors que je n'y étais pas du tout préparé. Vous m'entendez, mais pas le moins du monde. J'ai acheté des livres d'histoire, des techniques, introuvables en France, du reste. J'ai acheté des livres anciens, j'ai vu les outils et, comme je suis quand même un homme assez pratique, on le devine, eh bien, je dis, rien de plus simple, je vais ramasser les outils. Et je ramasse les outils.
Et vous ramassez encore.
Plus que jamais, tenez, je vous en fais voir. Je ne l'ai pas porté exprès, mais j'ai pensé tout à l'heure.
Ça un outil que vous avez dans votre portefeuille.
Oui. Nous allons faire une vitrine pour les dames. Une vitrine pour les dames, parce que je voudrais gagner le cœur des mamans. Les mamans ont une... C'est un petit crochet en os.
Un crochet, oui.
Je voudrais...
Il est en quoi?
En os.
En os.
Oh, mais c'est très grand. C'est une très grande pièce. Je voudrais, voyez-vous, que les mamans chez nous puissent se souvenir, elles et leurs garçons, que chez nous, quand ils sont venus, la maman a pu expliquer quelque chose à son gamin. Elle ne peut pas expliquer les haches, mais elle pourrait expliquer ça. Alors je recherche, par exemple, un très beau carreau de dentelière, que sais-je, etc. Vous comprenez? Il se trouve que je n'en ai pas encore. Faire une vitrine des dames. Oui, je cherche des outils actuellement, voyez-vous. Alors, je cherche quel outil? Je suis un homme très sage, malgré les apparences. Je suis un fou sage, plein de sagesse.
Le fou du roi?
Ah non, le fou de Jésus. Le fou de Jésus. Un fou sage. Je cherche l'outil français de façonnage à main du 18e siècle. Pourquoi? Il est dessiné. C'est unique dans le monde. Dans le monde, c'est unique que l'outillage complet d'un peuple ait été dessiné. Alors, je cherche cet outil-là. Je le trouve tous les jours et je recherche alors, pour remonter le cours du temps, deux espèces de pièces de l'outillage, le compas ancien et l'enclume. Je veux que nous terminions sur un feu d'artifice d'enclume ancienne.
Vous savez ce qui est admirable, Père Paul, ce sont ces photos. ce sont ces outils inventés par la main de l'homme et qui sont des chefs-d'œuvre. Et je m'inquiète un peu car beaucoup de ces outils vont disparaître, ont disparu. Que d'outils qui ont disparu, qui racontent quand même l'histoire de l'homme. Et on peut se demander quand même si l'homme qui a inventé ces outils et l'homme qui invente aujourd'hui les machines, si ces hommes-là sont les mêmes.
Oui, je vais vous dire quelque chose qui me paraît très intelligent. C'est de moi, je vous prie de m'en excuser. Tout à l'heure, je disais que dans ce qu'on appelle l'artisanat, le domaine de l'outil, du reste, l'artisan a des machines ultra-modernes. Et il n'est pas fou, parce que comme c'est lui qui va s'en servir, il sait les choisir. À l'encontre de certaines machines qui sont, dont l'achat dépend d'une décision d'un monsieur qui n'y mettra jamais les mains, sauf pour se faire photographier l'objet d'inauguration, avec ses décorations et tout. Oui, la chose a été vue, et inoubliable.
Elle sera vue encore.
Ah oui, plus que jamais. Bien. Entre deux époques, disons le 18e, pour faire une caricature, le 18e siècle français, et puis aujourd'hui, je dis, cet outillage montre que le peuple en France a fait preuve d'un esprit extraordinaire. Ce que j'appelle la chaleureuse pensée ouvrière. Ces formes sont belles, mais avant d'être belles, elles sont fonctionnelles. Elles sont fonctionnelles. Vous voyez, regardez bien sur la couverture, le fer de l'outil, le fer de cet outil. Hein. Le bois est restauré. Mais on n'a pas pensé que c'était méchant de mettre un tel outil, tellement son fer est exceptionnel. On voit sa façon. Alors, tout l'esprit qui est dans cette façon, l'ornement qu'il y a au-dessous du talon, au-dessous de la tête de cette petite herminette-là, il y a un ornement qui est gratuit. Il a fallu le faire, il a fallu que le forgeron qui avait entaillé son fer mette son outil dessus et demande, comme on dit là-dessus, s'il vous plaît, demande à l'aide forgeron de frapper. Il y a donc eu, c'est inscrit dans le matériau, c'est inscrit dans la ferraille, là il y a eu
une unité.
Au point de vue oui, sous le signe de l'unité, c'est absolument évident, il y a eu une union des volontés, ils ont voulu tous les deux ça. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui le peuple en France, dans le domaine de la vie industrieuse, que j'appelle, ce qui recouvre l'ensemble de ce que j'appelle l'ouvrage ouvrier, que ce soit à l'usine, sur les chantiers, en chantier, dans la marine, partout, dans les cuisines, partout, comment se fait-il que le peuple, à des exceptions près, ne fasse plus preuve, montre d'un tel esprit? Pour moi, je vais vous le dire. Le peuple s'est laissé saigner. Il a laissé ses enfants aller à l'école. Il les y a poussés pour qu'ils sachent lire. Le professeur les a pris pour les envoyer partout, sauf dans les métiers. Et c'est une promotion pour le peuple de voir ses fils monter, aller renforcer l'élite des adolescents de la classe dirigeante. Et le peuple s'est retrouvé privé de ses camarades de petite classe primaire et qui étaient plus forts qu'eux et sur qui ils se seraient appuyés. Comme on s'appuyait encore au 19e. Au 19e, on s'appuyait encore sur les plus forts. On vient de rééditer là, les mémoires d'un ouvrier maçon du 19e, Martin Nadeau. On s'appuyait sur lui, il faut relire là-dedans. Quand Martin Nadeau raconte comment son père était estimé, parce que au pays, c'était lui à qui on confiait les gamins, c'était lui qui les guidait. Puis quand il raconte tout ce que son père a fait pour lui, pour le guider quand il était à Paris, lui laissant une liberté extraordinaire d'aller.
Oui, Père Paul, vous ne pensez pas que tout cela revient un peu en ce moment?
Mais revient. Alors, ici,
je dirais un peu, je devrais dire beaucoup.
Ah, écoutez-moi bien, revient, mais alors je dirais.
Il y a renaissance.
En désordre, etc. Alors, il faudra que j'ai l'audace d'aller me faire tuer sur la place publique. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre. La maison est lancée, je puis mourir, je meurs très volontiers.
Et la maison, c'est la maison de l'outil.
La maison de l'outil et de la pensée ouvrière. Le titre, je l'ai choisi et il est inscrit dans la pierre, de façon...
C'est votre prière.
Ma prière, la voici. Seigneur, j'offre ma journée et je vois bien qu'en retour... Vous vous occupez de notre exposition. Qu'elle attire à vous, Jésus adolescent, par un apprentissage vrai des adolescents de qualité. Et je ne dis pas ça avec un point d'exclamation. Je dis, je vois bien qu'elle attire. Je le vois tous les jours. Et c'est comme Saint-Pierre, vous savez, ce cher gros Saint-Pierre-là. Si c'est toi, Seigneur, dis que je viens. Eh bien, il tombe dans l'eau. Mais moi, je crois à cette planche de salut, voyez-vous. J'y crois. J'y crois. Et à cette heure, je vous dis qu'il y a en France des adolescents. Des adolescents. Car il y a un âge, mon cher monsieur Jancel. Vous m'entendez ? En 43, j'ai été contre la loi. À cette heure, tous les Français qui nous dirigent ont été à cette époque-là contre la loi. Je serai contre cette loi qui maintient les enfants au-delà de l'âge qui convient dans les écoles. Vous m'entendez ce que je vous dis ? Qu'elle soit technique ou autre. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ?
Ah, c'est très pressé.
Ah, je suis prêt à me faire tuer au sortir d'ici. Même par un tueur. Car ce ne sera pas pour une autre cause que pour Jésus adolescent. À titre d'hypothèse, n'est-ce pas, comme tout à l'heure. Pourquoi ? Pourquoi donc ? Pourquoi pas, Jacques ?
Père Paul, dans une de vos lettres, vous me disiez « Il me faut chercher des ressources d'un ordre de grandeur supérieure, car je n'ai plus qu'une vie.
Ah, » oui.
Je n'ai plus qu'une vie.
Oui, étant donné le nez que j'ai, que tout le monde sait que j'ai, étant donné la hausse du coût de la vie habituelle, qui pèse sur tout le monde, étant donné que j'ai fait monter le prix des choses, étant donné que je deviens de plus en plus difficile, à cette heure, voyez-vous comment il en a, à cette heure, les pièces que j'achète, que voulez-vous, elles ont été repérées depuis longtemps. Vous comprenez ce compas que je vois depuis combien de temps il est là ? Depuis 4 ans ? Oui, dit-il, je l'ai acheté il y a 4 ans à Londres, il y a 25 ans plus tôt, je l'avais vendu à un Américain qui est mort. Bon, mais j'ai dit, il est à moi, c'est tout, voilà, je le lui dois.
Et vous avez de l'argent pour acheter des objets ?
Ah non, je quête depuis 54.
Je suis persuadé que vous allez recevoir beaucoup d'outils, hein ?
Qu'on m'appelle, je vais les choisir. Qu'on m'appelle,
vous
qu'on m'appelle.
Ah, on ne peut pas vous envoyer n'importe
si.
Quoi.
Oh, il faut pas, non. Non, il faut m'appeler.
Un outil, c'est quand même un cadeau.
Ah oui, attention, on peut m'envoyer des truelles. Ça, des truelles, on peut m'en envoyer autant qu'on veut dans les fameux. Ah oui, ce serait un fameux cadeau de nouvel an. Quelques sous m'arrangerait énormément. Jacques Chancel, je veux dire quelque chose, mon ami, vous m'entendez ? Si vous trouvez un homme aussi prétentieux que moi, et qui n'a pas aujourd'hui un front, dites-le-moi, j'irai l'embrasser.
Mais je suis persuadé que vous allez être entendu, mon père. Vous avez fait tellement pour tout cela, vous avez ouvert d'autres portes qui ne sont pas celles qu'on ouvre d'ordinaire. On aime bien ces voix-là, vous savez.
Je le sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je...
Ces voix contradictoires.
Oh oui, mais...
Vous êtes sûr de vous ?
Pas sûr de moi, je suis sûr de celui qui me réconforte, comme dit mon patron, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Mon audace, mon cher monsieur. J'ai un mot aussi, je dis, excusez-moi, je prépare un tétanos. Je dis, il y a là, c'est-à-dire dans la maison de l'outil de la moisson ouvrière, quelque chose qui nous dépasse tous. Et c'est ça qui est très fort, c'est que, ici j'ai pu parler de Jésus-Christ parce que vous m'en donnez la liberté, mais là-bas, c'est une maison qui est neutre et je respecte cette neutralité. Je suis comme les sages innocents, je prêche en me taisant, mais ça m'est très très dur. C'est pour ça que je suis très heureux d'ici parce que je pense que des adolescents... Le plus beau cadeau qu'ils pourraient faire, ce serait de m'écrire, par exemple, de m'envoyer un dessin de Jésus adolescent outil en main. Ou bien, s'ils ne sont pas croyants, un adolescent outil en main. Simplement, le fait de dire, tiens, maman, ce monsieur-là, qu'on ne connaît pas, Paul, rue de la Trinité, numéro 7 à 3, il veut faire une exposition d'outils de dessin d'enfants. Ce serait extraordinaire, ce moment. Et ce mouvement, voyez-vous, serait le vrai, vous m'entendez. Parce que tous ces garçons qui quittent Normal Sup, ou qui quittent Maths Sup, comme encore, on vient de me le dire à l'instant, pour aller faire des choses d'une générosité absolument extraordinaire, je pleure en pensant qu'ils n'ont été guidés par personne, qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour leur suggérer de quitter plus tôt, peut-être d'avoir l'audace comme Jésus, à 12 ans, a eu l'audace d'aller rester au temple. Et je me demande s'il n'a pas eu l'audace d'imposer à ses parents de faire un apprentissage. Peut-être que sa mère et son père avaient d'autres vues sur cet adolescent de qualité.
Puis l'apprentissage est un risque, on prend le risque de plaire et de déplaire.
Oui, mais tout de suite, c'est payant parce que on commence à devenir homme.
Père Paul Feller, on aura compris quel est le sens de votre testament spirituel. Je crois savoir que c'est le testament d'un prêtre de la Compagnie de Jésus, également le testament d'un compagnon du devoir.
Oh, je ne dis pas compagnon.
Mais on l'est dans le cœur, on l'est par l'esprit.
Oui, je suis ami, oui, ami des compagnons.
Vous avez travaillé à la forge et vous êtes prêtre.
Oui, 10 ans durant. Et je vais publier mes cahiers. Car je ne suis jamais retourné à l'atelier sans avoir noté par écrit mes émotions à l'atelier. Je vais les publier.
Merci mon père, on aurait pu parler très longtemps encore. On aurait pu parler de votre prêtrise, de votre mission, de l'existence humaine. Mais on ira sans doute vous visiter à Troyes dans votre maison de l'outil.
Je ne suis pas chez moi.
Vous n'êtes pas chez vous, mais vous êtes partout chez vous. Merci mon père.